Quand on parle du mot salut, il peut nous arriver à nous en tant que chrétiens qui avons grandi depuis des années dans une église locale, de le limiter au jour de la nouvelle naissance. On dit le jour où Dieu m'a sauvé. Hein, souvent quand on parle du salut, on parle de ce jour où Dieu m'a sauvé. Et c'est juste, c'est le jour où l'Esprit de Dieu a choisi de nous régénérer, c'est-à-dire de tout transformer, toutes les parties intérieures de la raison, la connaissance, tout ce qui est en nous a été régénéré par le Saint-Esprit pour devenir un enfant de Dieu. C'est aussi ce vocabulaire qu'on utilise des fois où on est passé du royaume des ténèbres au royaume de lumière, au royaume de Dieu. Quand on parle du mot salut, aussi il est évident qu'on parle de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix et lors de sa résurrection. Parce qu'on est tous d'accord, pour ceux qui sont chrétiens ce matin, que Jésus-Christ est la source du salut. Nous croyons encore ce matin, et je l'espère que chacun, que Jésus est juste et sans péché. Nous croyons qu'il est mort pour des personnes comme moi, injustes, indignes et pécheresses. Nous croyons aussi que Jésus-Christ a vaincu la mort par la résurrection. Nous croyons que Jésus-Christ est le seul, uniquement le seul, à pouvoir nous accorder le salut. Donc quand on parle du mot salut, souvent tout ce que je viens de dire, c'est assez clair dans notre tête. Et tout cela est vrai. Mais à la lecture de l'Écriture, et on va le voir ce matin, le salut ne se limite pas à un jour seulement dans notre vie. Que Christ soit la source, que Christ ait payé le prix à la croix pour nous accorder ce salut par sa mort et sa résurrection, oui. Mais ce n'est pas juste limité au jour de la nouvelle naissance ou des fois, comme on utilise le mot, conversion. Le salut implique une vie quotidienne de dépendance à Dieu. Le salut, c'est l'œuvre que Dieu a commencé en nous et qui va accomplir à la perfection. Nous avons déjà goûté, expérimenté, inauguré, si vous voulez, le salut, mais ce salut, il est en mouvement. Il continue jusqu'à sa pleine consommation, jusqu'à son plein accomplissement qui aura lieu uniquement où ? Dans l'éternité. Et Paul veut rappeler cette vérité à ses frères et sœurs de l'église de Philippe. Pourquoi ? Parce que les frères et sœurs de l'église de Philippe avaient un petit relâchement. Et Paul sait que le salut mis en action, le salut qui est mis en action permet de lutter contre deux choses, qui sont deux choses qui sont encore contemporaines aujourd'hui aux chrétiens. Lutter contre les tentations, contre les compromis, contre les choses extérieures à l'Église, et aussi avoir un salut qui est en mouvement, en action, permet aussi de lutter contre les tensions à l'intérieur de l'Église. Et il faut bien comprendre que Paul, il a été informé par des lettres, des retours, peut-être Timothée ou Épaphrodite qui sont venus le voir. Il y a un relâchement à Philippe. Il s'est passé quelque chose. Et Paul n'écrit pas des lettres juste parce qu'il avait envie d'écrire des lettres. Le Saint-Esprit l'a convaincu d'écrire parce qu'il y avait des problématiques, qu'il y avait des choses à régler. Et ces lettres allaient être des outils voulus par Dieu pour régler des problématiques au sein des églises qui nous permettent aujourd'hui d'être des outils pour aider chaque église dans le monde et quelles que soient les époques. Donc Paul est informé de ça, il sait qu'il y a du compromis qui a dû se faire avec l'extérieur et des querelles à l'intérieur. On a déjà parlé un peu de ça dans les premiers chapitres, on continuera à le voir au chapitre 3 et 4. Et les versets que nous allons lire ce matin vont nous enseigner sur la manière dont les personnes sauvées doivent vivre leur salut, autant dans le contexte de l'église que dans le monde. Et on va voir que le salut, ce n'est pas juste limité au jour J, mais c'est du quotidien, le salut. Hein ? Il ne s'agit pas de versets qui parlent de comment être sauvé ou de comment conserver son salut, mais ce matin, nous allons voir la mise en œuvre de manière visible du salut. Okay ? Les versets que vous allez voir, les mots que nous allons lire dans quelques instants, ne sont pas des versets pour nous dire comment être sauvé ou comment conserver son salut. C'est nous sommes sauvés, comment vivre ce contenu du salut. Alors je vous invite à prendre le texte dans Philippiens chapitre 2 et nous verrons du verset 12 à 18 ce matin. « Philippiens 2, versets 12 à 18. En fonction de vos traductions, il y a peut-être des nuances, des synonymes dans certains mots. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Et même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouirai avec vous tous. Vous aussi, réjouissez-vous de même et réjouissez-vous avec moi. On va voir ce matin plusieurs choses. Si on peut passer au PowerPoint. La grande question, c'est travailler à votre salut. Et qu'est-ce que ça veut dire? Et on va voir ce matin notre salut en application. Notre salut en application. Et sur la diapo suivante, on va voir dans un premier temps une application générale, hein, mettre en action son salut. On va voir les grandes lignes et on va voir que la mise en œuvre du salut s'exerce avec la crainte de Dieu. Et puis on verra que la mise en œuvre du salut, très intéressante, est produite par Dieu. Et puis après avoir traité les applications générales, ça va découler vers des applications particulières. Être fidèle sans se plaindre. Faire preuve d'une... Ouais, c'est le trait, hein. C'est pas que ça a été barré. Hein. Faire preuve d'intégrité dans ce monde corrompu et se réjouir de souffrir pour Christ. On va commencer d'abord avec cette application générale. On reprend notre verset 12 à 13. L'apôtre Paul dit à ses frères et sœurs de Philippe, « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Paul rappelle quelque chose qui est toujours intéressant avec l'apôtre Paul, avant même de faire des reproches ou de vouloir soulever des problématiques. Il commence toujours avec cet amour pour ses frères et sœurs. Il dit ici, mes bien-aimés. Et c'est bien, le mot bien-aimé, c'est vraiment l'idée de cet amour qu'il a pour cette église. Il ne faut pas oublier que Paul a été en prison dans cette ville. Il a connu la persécution pour ses frères et sœurs. Mais en même temps, il a vu des nouvelles naissances. Il a vu l'église naître. Et il aime cette église. Hein, on est peut-être 10 ans après, après l'œuvre, la naissance de cette église. Mais il aime ça. Et il peut les appeler bien-aimés. Pourquoi il peut les appeler bien-aimés? Parce qu'il parle à des gens qui partagent le même salut que lui. Ils sont les bien-aimés du Père. Comme lui. Et cette expression, les bien-aimés, c'est fort. Ce n'est pas juste une expression de rhétorique ou une expression de politesse. On partage le même salut. Nous croyons au même Seigneur. Nous avons été sauvés par Christ. Vous êtes mes bien-aimés. Il dit à ses frères et sœurs aussi quelque chose de très intéressant. Vous mes bien-aimés, vous ce que j'aime, vous ce qui appartenez au Christ. Il leur dit, comme vous avez toujours obéi. Obéi à qui? Obéi à quoi? Est-ce que vous vous souvenez de ce verset dans le chapitre précédent qui disait, qui encourageait les chrétiens à faire quoi? À se conduire d'une manière digne de l'évangile de Christ. L'obéissance est liée à l'évangile de Christ. Être un citoyen des cieux implique d'obéir à qui? À Christ. Et là, il est en train de mettre en avant, c'est ce que vous étiez en train de faire. Mais si je suis en train de vous le rappeler là, c'est qu'il s'est en train de se passer quelque chose. Mais vous étiez en train d'obéir à Christ. Vous étiez en train de faire ce qu'il fallait. Vous étiez en train de vous conduire. Mais je suis obligé de vous le rappeler. Parce que j'ai appris qu'il y a du relâchement. Il y a des compromis par rapport à l'extérieur. Il y a des querelles à l'intérieur. Alors là, on n'est plus trop en train de se conduire et d'être digne de l'évangile de Christ. Là, on n'est plus trop en train d'obéir. Alors je veux recentrer votre regard. Vers cela. Et je sais que vous en êtes capables, les Philippiens. Je sais que vous en êtes capables. Cela implique d'avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Pourquoi ? Parce que Jésus-Christ s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Voilà qu'est-ce que Paul est en train de dire. Il leur dit, vous étiez obéissants à tout ça. Vous étiez en train de vivre les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, les uns avec les autres, dans votre attitude à l'extérieur. Et vous savez, Paul, il a l'art de répéter les mêmes choses. Et souvent, Paul, quand il répète les mêmes choses, il rajoute toujours un peu de contenu. Et vous savez à qui ça me fait penser, ça ? À ceux qui sont parents. Je ne sais pas si c'est ce qui vous use le plus, mais la répétition, c'est usant en tant que parent. Mais c'est tellement important pour l'instruction de nos enfants. Nos enfants vont grandir et se construire parce que nous allons répéter les mêmes choses en rajoutant du contenu, en fonction de leur âge, pour qu'ils grandissent. Autant dans ce qu'ils sont en tant qu'être humain, mais aussi spirituellement. Et Paul fait ça avec ses églises. Paul répète toujours les mêmes choses. Là, les versets 12 à 18 qu'on voit, c'est juste des répétitions de ce qu'il a déjà enseigné avant avec d'autres versets. Mais ça, c'est l'art de Paul, de répéter les mêmes choses pour éduquer les chrétiens. Les Philippiens ont donc expérimenté l'obéissance au Christ. Et ce qui est beau, c'est qu'ils ont expérimenté cette obéissance même quand Paul n'était pas là. Même quand Paul était absent, les Philippiens obéissaient. C'est pas comme des fois, on est là, on va pas faire ça parce qu'il y a du monde qui me regarde. Mais eux, même quand personne ne les regardait, ils vivaient ça parce qu'ils vivaient la crainte de Dieu. Ils avaient une bonne dynamique. Mais il y a un relâchement. Et Paul veut les encourager à faire ce qu'ils ont déjà fait en fin de compte. C'est ça que Paul est en train de dire. J'aimerais vous encourager à reproduire, à continuer, ou en tout cas à revenir à ce que vous avez déjà produit. Là, il se passe quelque chose. Il faut revenir à ça. Il veut leur rappeler que la mise en œuvre du salut se fait avec la crainte de Dieu. Ça, c'est la première chose qu'on va voir dans l'application générale. Ils ont commencé à négliger ça. Et ça a un impact dans leur vie. Et ça, nous le savons tous, nous pouvons tous passer par des moments de relâchement, plus ou moins longs pour certains d'entre nous. Nous pouvons aussi perdre de vue la crainte de Dieu. Nous pouvons perdre de vue la crainte de Dieu. Et là, Paul veut les rendre plus attentifs à l'auteur de leur salut, à la valeur de leur salut. Il veut réorienter leur regard vers cette mise en œuvre de leur salut qui passe par la crainte de Dieu. Alors la grande question maintenant, c'est qu'est-ce que la crainte de Dieu ? Qu'est-ce que la crainte de Dieu ? La crainte de Dieu, tout d'abord, c'est un thème majeur dans l'Écriture. C'est un thème majeur qu'on voit à plusieurs reprises. Et la crainte de Dieu, dans ce que nous sommes en train de lire, est une nécessité pour l'apôtre Paul. Mais la question, c'est pourquoi associer la mise en œuvre de son salut avec la crainte de Dieu ? Chose qu'il n'a pas fait auparavant. Pourquoi associer la mise en œuvre de notre salut, quand c'est le mot « travailler à votre salut » si vous voulez, avec la crainte de Dieu ? Pourquoi Dieu voudrait-il qu'on le craigne et qu'on tremble ? Lui qui nous délivre de nos craintes, lui qui est amour. Pourquoi Dieu voudrait-il cela ? Est-ce que c'est un concept nouveau ? Ou est-ce que c'est quelque chose qui était déjà établi avant ? Donc il y a une tension ici. Il y a une tension. Même certains pourraient dire que l'amour bannit la crainte. La parole de Dieu nous aide à comprendre que notre salut nous libère de nos craintes, celles qui nous bloquent dans tant de domaines, tant de domaines de notre vie. Et toutes ces craintes, tous ces compromis qu'on peut faire dans nos vies sont liés au fait qu'on ne craint plus Dieu. Et vous savez qui est le meilleur des exemples de la crainte de l'Éternel ? Est-ce que vous savez qui est le meilleur des exemples de la crainte de l'Éternel dans l'Écriture ? C'est Jésus-Christ. Et c'est intéressant que l'apôtre Paul, il y a quelques versets juste avant cela, il dit « Ayez en vous les mêmes sentiments que Christ. » Ésaïe chapitre 11 nous instruit, nous enseigne que le Christ, le Messie lui-même, a craint l'Éternel. Regardez avec moi. Ésaïe 11, versets 1 à 3. Le paradoxe de biblique, c'est que la crainte de l'Éternel nous libère de nos craintes, en fin de compte. C'est un paradoxe, Mais regardez pourquoi cette crainte est importante et pourquoi Paul, qui est un homme de l'Ancien Testament, il connaît bien et comment il arrive à faire ses continuités ou montrer ces liens qu'il y a aussi. Il dit dans Ésaïe chapitre 11, versets 1 à 3, en parlant du Christ, du Messie, il dit « Puis un rameau sortira du tronc d'Ésaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. » Pourtant, il est Dieu. Il respirera, c'est fort, hein ? Il respirera la crainte de l'Éternel. On parle de Jésus-Christ. Il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur elle un oui-dire. La mise en œuvre de notre salut, dont Christ est la source, est liée avec la crainte de l'Éternel, parce que l'auteur de notre salut, lui-même, nous a montré qu'il a craint l'Éternel. Et que c'était bon, que c'était bénéfique. L'auteur au Proverbe 28, dit ceci, pour montrer que la crainte de l'Éternel, c'est quelque chose qui est bon. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte de Dieu. Pourquoi ? Pourquoi il est heureux cet homme ? Pourquoi il est heureux de craindre Dieu ? Parce qu'on va le voir, ça éloigne du péché. Il met en œuvre son salut. Il reflète le caractère de Christ en fin de compte. Je ne sais pas si vous venez dans Exode 20, on arrive aux 10 commandements. Et il y a ce texte qui est très fort, qui parle justement de l'importance de la crainte de Dieu. Il dit au chapitre 20, Exode 20, 18 à 20, « Tout le peuple entendait les tonnerres et le son et la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Il dira à Moïse, « Parle-nous toi-même et nous écouterons. Mais que Dieu ne parle point, de peur que nous ne mourions. » Ce n'est pas la bonne crainte, ça. Moïse dit au peuple, « Ne vous effrayez pas, au contraire, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. Et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux. Dans quel but ? Afin que vous ne péchiez point. » La crainte de Dieu, la mise en œuvre de notre salut avec la crainte de Dieu, nous permet d'être heureux parce que ça nous permet de renoncer au péché en fin de compte. Samuel a repris les mêmes paroles, 1 Samuel 12, 24. « Je vous enseignerai le bon et le droit chemin. » C'est ce que Dieu fait. Il veut nous enseigner le bon et le droit chemin. Qu'est-ce qu'il dit Samuel au peuple ?« Craignez seulement l'Éternel et servez-le fidèlement de tout votre cœur. » Ça va ensemble. « Car voyez quelle puissance il déploie parmi vous. Craignez l'Éternel et servez-le fidèlement. » La crainte de Dieu n'a pas pour objectif de nous apeurer, n'a pas pour objectif de nous inquiéter, mais au contraire de vivre les bienfaits du salut. De se réjouir, de servir notre Dieu, notre Créateur, mon Rédempteur, notre Rédempteur. Ne pas craindre Dieu, Jérémie dit, c'est une chose amère. Jérémie 2, 19 dit ceci, « Tu sauras et tu verras que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel ton Dieu et de n'avoir de moi aucune crainte, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. » Il est possible que les Philippiens se sont relâchés dans cette crainte de l'Éternel qui a emmené du compromis avec l'extérieur et des querelles à l'intérieur. Cette semaine, je l'ai noté, il n'était pas prévu dans la prédication, mais je l'ai noté parce que je crois que c'est Sarah Sourisseau qui l'a partagé dans une des cellules, le psaume 34, je pense que tu avais partagé Sarah, et j'ai souligné ce verset qui était très intéressant et à propos pour ce matin, qui dit au verset 10, « Craignez l'Éternel, vous, ses saints, et c'est les enfants de Dieu, car rien ne manque à ceux qui le craignent. » C'est beau ce verset. Mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, parce que c'est ça que les enfants de Dieu sont appelés à faire, et rien ne manque à ceux qui le craignent. J'aimerais vous citer, vous faire lire deux prédicateurs, pas de nos siècles, du 4e siècle et du 17e siècle, qui ont écrit sur la crainte de Dieu. J'ai trouvé ça assez pertinent, leur réflexion. On va commencer avec un homme qui s'appelle Jean Chrysostome. Vous n'avez peut-être jamais entendu se parler, ce n'est pas très grave. Mais c'était un grand prédicateur dans les débuts des premiers siècles de notre ère. Il parle de la crainte de Dieu. Il dit, Quels sont les moyens d'éveiller en nous ce sentiment si efficace? Et là, il parle de la crainte de Dieu. C'est de graver dans notre âme le sentiment de la présence partout d'un Dieu qui entend tout, qui voit tout. Et non seulement nos faits ou nos paroles, mais jusqu'aux replis les plus cachés de nos cœurs et de nos esprits. Car Dieu est le témoin des pensées et des désirs du cœur. Gardez-vous dans n'importe quelle œuvre d'agir comme si Dieu n'était pas partout présent, car il est là. Ainsi, dans le repas, à l'heure du sommeil, lorsque vous êtes prêt à vous livrer à la colère, à la rapine, au plaisir, dans toute action, enfin, pensez à la présence de Dieu. Et le rire coupable s'arrêtera sur vos lèvres, et la colère ne pourra vous emporter. Armé de cette continuelle pensée, vous serez constamment dans la crainte et le tremblement, puisque toujours vous vous verrez en présence du souverain roi. Tellement bien résumé, tellement pratique. Un très bon rappel de cet homme. Et puis un autre, qui est peut-être un peu plus connu, s'appelle John Owen, qui a écrit ceci au XVIIe siècle. La crainte de l'Éternel signifie l'adhération complète de Dieu, qu'elle soit morale ou instituée, toute l'obéissance que nous lui devons. La mise en œuvre de notre salut se fait avec la crainte de Dieu. Et c'est ce que Paul veut rappeler à ses frères et sœurs de Philippe. Si vous avez à cœur, ça tombait bien parce que sans, j'ai pas encore travaillé cette prédication, et Michael Denlop m'avait offert ce livre à Noël, Pourquoi la crainte du Seigneur est une bénédiction pour le peuple de Dieu. C'est vraiment un très bon livre de Michael Reeves, si vous avez à cœur de le feuilleter ou de vouloir même l'acheter. Vraiment, il est très équilibré et il montre la joie de craindre Dieu. C'est très intéressant. La deuxième application générale, c'est que la mise en œuvre de notre salut est produite par Dieu. Et ça, je dirais que c'est rassurant. En fin de compte. C'est tellement rassurant de savoir que la mise en œuvre de notre salut est produite par Dieu. Le but de Dieu, il ne faut surtout pas le perdre de vue. C'est ce qu'on voit dans Philippiens 1. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Ça, c'est un objectif de Dieu. C'est le travail de Dieu. Et c'est pourquoi il dit, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. On peut associer ces versets ensemble. Et là, il parle du salut. Dieu, mes amis, si vous êtes sauvés ce matin, il est en train d'agir en vous jour après jour, même quand vous ne le voyez pas. Même dans vos moments où ça ne va pas, il continue à travailler en vous. Parce qu'il s'est engagé à faire cela. Votre salut est en mouvement. C'est pour ça que je disais au départ que le salut, ce n'est pas limité juste à un jour. C'est tous les jours, jusqu'à sa pleine consommation dans l'éternité. Et ce que Paul rappelle, c'est que Dieu veut transformer notre être à son image. Il a envie que vous reflétiez de plus en plus son caractère jour après jour. C'est ce que Dieu veut. Et Dieu vous donne la capacité de faire sa volonté. Parce que toutes nos capacités viennent de Dieu. Regardez le passage dans 2 Corinthiens 3, 5. Je n'ai pas le temps de prendre tout ce chapitre, mais il y a un vocabulaire qui se rapproche beaucoup du vocabulaire de Philippiens, chapitre 2 aussi. Je lis juste ce verset. Ce n'est pas dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de qui ? Vient de Dieu. Et Dieu, il a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a voulu faire sa demeure en nous. C'est un peu fou, hein. Mais Dieu, par son esprit, est présent en nous et avec nous, et à la fois pour vouloir et pour faire le bien selon sa volonté. Et c'est ce que Dieu veut faire en nous. Il va nous donner la capacité, depuis que nous sommes régénérés, à pouvoir avoir des nouveaux désirs. Le salut en nous implique de nouveaux désirs. Et Dieu donne ces capacités-là. Si Dieu produit en nous le vouloir et le faire, alors on pourrait se poser une question qui va vite arriver dans votre esprit. Quelle est la place de mon obéissance? Je suis presque une marionnette. Non, ce n'est pas ce que le texte dit. Oui, Dieu est l'auteur complet du salut. Mais maintenant que nous sommes sauvés, Dieu nous donne une capacité intérieure par cette régénération pour pouvoir justement mettre en œuvre cela. Et en même temps, lui, il agit. Lui, il agit. Et le Saint-Esprit, il est là en vous. Et il vous pousse à ça. Dieu produit le vouloir et le faire chez ses enfants. Oui, c'est une vérité. Et cela signifie qu'il donne la capacité à ses enfants de pouvoir obéir et faire sa volonté grâce au salut qu'il vous a accordé en Jésus-Christ. C'est ce que Paul a dit aux Éphésiens à un moment donné. Il leur a dit quoi ? Il leur a dit qu'ils ont été recréés, Éphésiens chapitre 2, verset 10, qu'ils ont été recréés par Jésus-Christ, chose qui avait été perdue au Jardin d'Éden. Ils ne pouvaient plus refléter l'image de Dieu parce que ça a été perdu à la chute. Mais maintenant, il y a une nouvelle création qui est meilleure encore que la première. Elle est en Jésus-Christ. Et elle nous permet de faire quoi, cette nouvelle création en Jésus-Christ ? Éphésiens chapitre 2, verset 10. De mettre en œuvre notre salut. De pratiquer quoi ? Des bonnes œuvres. Pas qu'on est sauvé par les œuvres, j'insiste là-dessus. Mais le fait d'être sauvé nous permet de pouvoir pratiquer des bonnes œuvres. Philippiens 2, Éphésiens 2 vont ensemble aussi. Tout comme 2 Corinthiens 2. Nous ne sommes pas en train de collaborer pour obtenir notre salut, ni chercher à le conserver, vous n'y arriverez pas. Par contre, nous sommes sauvés et Dieu nous rend participants de la mise en œuvre de ce salut. Et ça encore, c'est une application générale. Et ces deux applications générales, que la mise en œuvre de notre salut avec crainte, que la mise en œuvre de notre salut est produite par Dieu, nous amène maintenant à des applications plus spécifiques, plus particulières. Et c'est les trois prochaines que nous allons voir dans notre texte. Versets 14 à 18. Paul dit aux Philippiens, « Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, c'est dans le monde dans lequel nous vivons, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, et je pourrai me glorifier au jour de Christ, de ne pas avoir couru en vain, ni travaillé en vain. Et même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouirai avec vous tous. Vous aussi, réjouissez-vous de même et réjouissez-vous avec moi. » C'est très intéressant qu'il commence avec la crainte de l'Éternel et qu'il finisse avec la joie aussi dans cette section-là. Donc la mise en œuvre de notre salut a des applications plus particulières. Et ici, on va voir être fidèle sans se plaindre, faire preuve d'intégrité dans ce monde corrompu et se réjouir de souffrir pour Christ. Donc là, Paul, il continue de parler de la mise en œuvre de leur salut et il les exhorte à être fidèles sans murmurer dans l'Église et dans le monde. Ce petit instrument-là, il est compliqué à maîtriser, dit Jacques. Mais il dit bien ici, faites toutes choses sans murmure ni hésitation afin que vous soyez irréprochables et purs. Il ne parle pas d'impeccabilité, il ne parle pas d'être sans péché, mais d'être irréprochable et pur. Il est fort possible que l'apôtre Paul, ici, est en train de faire écho avec une scène, ou en tout cas une période de l'histoire d'Israël. Pourquoi ? Il y a peut-être deux raisons. Vous savez que Dieu va condamner les murmures en Israël. Et c'est très intéressant que le vocabulaire « crainte et tremblement » choses sans murmure. Ensuite, on va voir génération perverse et corrompue, libation, sacrifice et offrande. Tout ce vocabulaire-là, dans ces tout petits versets, c'est ce qu'on retrouve dans l'Exode. C'est ce qu'on retrouve avec le peuple quand il sort de l'Égypte. Et il est possible que pour Paul, dans sa pensée, il est en train de faire des échos, des rappels à ça. Il mentionne ça. Et il en a déjà parlé aux Corinthiens, de cette notion de murmure liée à l'histoire d'Israël. Regardez 1 Corinthiens 10, versets 9 à 11. Et je pense que ça, c'est les deux raisons. Le vocabulaire que nous retrouvons déjà dans cette section, plus ce verset qu'on retrouve dans 1 Corinthiens 10, qui, je pense, Paul est en train de faire écho au murmure d'Israël. Il dit, 1 Corinthiens 10, versets 9 à 11, « Ne tentons point le Seigneur comme... » Il prend qui comme référence ? Comme le tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. Et là, il revient avec notre expression. Ne murmurez point comme qui murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées. Écoutez bien ça. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction. À nous, les chrétiens, aujourd'hui encore. À nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Et je crois qu'à la lumière de ce texte et au vocabulaire qu'on retrouve dans cette partie-là, Paul fait sûrement écho à ça. Alors certains me diraient, oui, mais il n'y avait pas beaucoup de, de gens qui venaient d'origine juive à Philippe. C'est possible. Cela ne veut pas dire qu'ils ne devaient pas avoir une instruction sur l'Ancien Testament pour mieux connaître Dieu. Ce n'est pas parce qu'ils n'étaient pas juifs qu'ils ne devaient pas avoir une instruction et une connaissance de l'histoire de Dieu. L'histoire de Dieu n'a pas commencé dans le Nouveau Testament, elle a commencé à la Genèse. Ils avaient besoin, même ces païens, de connaître l'histoire de Dieu. Ils devaient être instruits. Et Paul était l'un des meilleurs enseignants pour instruire les païens dans l'histoire d'Israël. Je pense qu'il avait une bonne connaissance de l'histoire d'Israël et une bonne théologie de l'Ancien Testament, l'apôtre Paul. Et je pense que c'est pour ça qu'il a été aussi choisi, pour instruire les païens. Mais un des péchés que Dieu traite sévèrement et qu'on en parle très peu, c'est les murmures de son peuple. Quand vous étudiez les murmures dans l'Ancien Testament, et comment Dieu traite les murmures, il ne blague pas avec. Nous, on prend ça vraiment très à la légère, mais pas Dieu. Pas Dieu. Et quand on met en œuvre son salut, on cesse d'être comme les Israélites qui ont murmuré. Les murmures sont accompagnés d'un autre mot dans notre texte. Vous avez peut-être le mot hésitation. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire ce truc-là. Mais le vrai sens qu'on retrouve ailleurs dans d'autres versets, c'est l'idée d'un esprit de controverse. Traduit par raisonnement ou hésitation dans vos traductions. Là, il est en train de dire, soyez fidèles sans murmurer entre vous, ni avoir un esprit de controverse. Si on devrait paraphraser cette phrase-là, c'est ça, c'est soyez fidèles sans murmurer entre vous, ni avoir un esprit de controverse. En fin de compte, c'est une exhortation qui est cohérente, qui est pleinement cohérente dans le contexte. Pourquoi ? Qu'est-ce que Paul a déjà dit aux frères et sœurs de Philippe ? Il leur a dit, demeurez fermes dans un même esprit. Donc arrêtez de murmurer, arrêtez de chercher la controverse, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. C'est ce qu'on a vu il y a 2 semaines avec Michael. Donc tout ça c'est cohérent ce qu'il est en train de dire. Il répète juste ce qu'il a déjà dit sous une autre forme, avec plus de contenu même. Et il veut que les Philippiens comprennent ça. Et ça c'est une application spécifique à l'église de Philippe. Et c'est une démonstration qu'on craint Dieu et qu'on est soumis à l'Esprit, parce que c'est ce que l'Esprit de Dieu veut. Paul continue en les encourageant à faire preuve d'intégrité dans ce monde corrompu. Il leur dit, il continue sa phrase et il dit, « Des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération... » pas sympa, hein ?« Perverse et corrompue. » Même vocabulaire qu'on retrouve dans... les Israélites dans l'Exode, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Il espère que tout ce qu'il a produit, tout ce qu'il a fait pour eux, ça puisse porter du fruit. Mais là, on voit quelque chose qui est assez intéressant et que nous retrouvons aujourd'hui dans nos vies de tous les jours. Il y a un contraste entre les chrétiens et la population de cette ville. Il y a un contraste qui est marqué ici. Et il y a peut-être eu un relâchement et Paul veut que leur citoyenneté céleste soit visible. Il utilise un terme plus fort, qui brille. Et je pense que Ed a prêché là-dessus la semaine dernière. Il veut que les chrétiens brillent au milieu des ténèbres. Il est possible que les Philippiens en avaient marre, fatigués d'être moqués, persécutés. En avaient marre. Ou un relâchement personnel dans sa vie de tous les jours. Et du coup, il ne brille plus. Il commence à se conformer au monde. Ils commencent à accepter ce que le monde accepte. Et Paul les encourage à vivre de manière à montrer au monde qu'ils sont un peuple sauvé par Dieu. Si on ne montre pas au monde qu'on est un peuple sauvé par Dieu, qu'est-ce qui va attirer les gens ? Rien. Vous aurez juste l'étiquette de chrétien. Le monde qui nous entoure est corrompu et rempli de mauvaises choses, rempli de perversité. Alors la question c'est comment pouvons-nous plaire à Dieu quand tout autour de nous, tout le monde accepte ce que Dieu déteste. C'est compliqué, hein ? Comment pouvons-nous plaire à Dieu quand autour de nous, tout le monde accepte ce que Dieu déteste ? Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où nous sommes oppressés, violentés. Et nous le savons au fond de notre cœur qu'il y a plein de choses autour de nous que Dieu déteste ça. Et nous, on est là, ah, tu ne détestes pas autant que ça quand même, Dieu. Tu es quand même amour, tu es quand même bon. Oui, il est bon, il est amoureux, c'est pour ça qu'il déteste ça. Parce qu'il sait que ça va nous faire du mal. Il sait que ça va nous détruire. Et Paul est en train de vouloir rappeler ça à ses frères et sœurs. Et il leur dit, le moyen, c'est en portant la parole de vie. Quand Paul parle de porter la parole de vie, il n'est pas en train forcément de parler d'évangéliser, mais de parler que nous sommes porteurs de la vie. Et cette vie devrait être visible. C'est comme si nous étions des traités vivants de la parole. Que les gens puissent lire notre vie, puissent lire, voir qu'on appartient à Christ. Certains auront de la haine contre nous parce qu'on porte Christ. Mais d'autres diront, mais il y a un truc. Il y a quelque chose. Parle-moi. Parle-moi. Je crois que nos comportements éthiques devraient être différents que de nombreux comportements de ce monde. Mais le problème du comportement éthique selon l'Écriture, un comportement éthique, c'est un comportement que nous allons vivre selon l'Écriture. Si l'Écriture nous dit par exemple de ne pas mentir et que nous sommes engagés à lutter contre le mensonge. Mais le monde est très fort et notre chair avec pour commencer à vivre le compromis par rapport à ça. Mais pas que par rapport à notre langage, par rapport à ce que nous regardons. Au départ, on ne portera jamais un regard sur une jeune fille vierge pour les hommes. Et puis, on s'autorise une fois, deux fois. Et puis après, on plonge dans des choses qui vont nous détruire, qui deviennent même des habitudes, des addictions, on n'arrive même plus à s'en sortir. Nous devenons des gens qui sont assidus au travail. Ça se passait bien. On était des hommes et des femmes fidèles dans ce qu'on faisait. Et puis on est fatigué. Le système du travail nous fatigue, nous épuise, on en a marre. Et on dit on va faire comme les autres. On va être paresseux. C'est la réalité, hein, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on ne travaille plus pour le travail, pour l'entreprise. On travaille pour se payer surtout des loisirs. Le monde du travail aujourd'hui, c'est se payer avant tout des loisirs. Notre fidélité à notre mariage. On s'engage à être fidèle à notre mariage. Devant plein de gens, devant le monde, devant l'Église. Les années passent et on voit autour de nous. C'est usant, hein? C'est lassant d'être depuis 20 ans avec la même personne. Peut-être on va aller voir autre chose quand même. Et la liste pourrait être tellement longue de l'éthique chrétienne. Et c'est ça, briller. C'est ça que montrer au monde qu'on est différent. Non, on ne va pas faire ça. Non, on ne fait pas ça. Pourquoi? Parce que je crains Dieu. Et je sais qu'il est là et que ça ne l'honore pas. Et je sais qu'il me donne la capacité de pouvoir dire non et de faire ce qui est bien. Parce qu'il a dit, Romains 6, hein, nous a libérés du pouvoir du péché. Et si on chute, il est fidèle et juste pour nous pardonner aussi, bien sûr. Et avancer à renoncer à ça. Il est tellement important de plonger nos regards dans cette parole de vie. Elle nous façonne, elle nous purifie, elle nous aide à briller dans ce monde ténébreux en lui obéissant. Plus vous allez vous éloigner de l'Écriture, de la prière et de la communion fraternelle, plus vous allez vous éloigner de Dieu et tomber dans le compromis. Et vous ne brillerez plus. On ne peut plus briller. C'est une réalité. Et si on en est là, ce n'est pas une fin en soi. Il suffit de revenir. Seigneur, pardonne-moi. C'est ce que Paul est en train de demander aux Philippiens. Revenez à ça. Vous avez déjà obéi à ça. Il leur a dit, vous avez déjà obéi à ça. Revenez à ça. Vous allez pouvoir ne plus être un compromis. Vous allez pouvoir ne plus faire de compromis avec le monde, mais briller. Vous allez pouvoir éliminer vos querelles dans l'Église. Parce que tout ça derrière, il y a aussi le pardon. Paul a dit, Pierre a dit des choses semblables à ce que Paul a dit. 1 Pierre 2,11 dit, « Bien-aimé, même expression, je vous exhorte comme étranger et voyageur sur la terre. » Si vous n'avez pas ça en tête, en tant que chrétien, ça va être dur de quitter ici pour l'éternité. Il faut vraiment que dans nos têtes de chrétiens, oui, on a un rôle à jouer ici en tant que chrétien, mais ici, ce n'est pas ma patrie céleste. Moi, je vous le dis, il me tarde d'être là-haut. C'est fatigant ce monde ici-bas. On en a marre. Je ne sais pas où, mais on en a marre de ce monde. Il est épuisant. Celui qui se réjouit dans toutes les choses charnelles de ce bas monde, je ne comprends pas. Ça me dépasse. Ce monde est épuisant, fatigant. On en a marre de lutter avec notre propre chair. On en a marre d'être oppressé par ce monde. Mais oui, Dieu nous voit encore là pour briller et tenir bon et il nous tient bon. Mais au fond de notre cœur, j'espère que vous aspirez tous à partir dans l'éternité avec votre Dieu. C'est incomparable ce que l'Écriture nous dit. Mais tant qu'on est là, on va continuer à combattre ensemble et tenir bon. Mais n'oubliez pas qu'on est des voyageurs et des étrangers sur cette terre. ne devenez pas des doubles nationalités. On n'a qu'une nationalité céleste. Bon, j'ai rien contre ceux qui ont la double nationalité. Hein. Mais pas celle-là. Il n'y en a qu'une. Et elle est merveilleuse. Comme étrangers, voyageurs, sauteurs, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Il est fort le mot. C'est un combat. Là, on ne part pas en claquette. Hein. Ayez au milieu des païens, voyez le même vocabulaire, une bonne conduite, l'idée de briller, afin que là même où ils vous calomnient, ils vont le faire. Comme si vous étiez des malfaiteurs. Ils remarquent quoi? Que vous êtes en train de mettre en pratique votre salut. Vous êtes en train de mettre en pratique votre salut, vous travaillez à votre salut. Ils glorifient Dieu au jour où il les visitera. Alors ça peut être du présent, comme ça peut être aussi lié au jugement final. Et Paul conclut cette section de la mise en œuvre du salut par la souffrance et la réjouissance. Un peu bizarre. Il conclut que travailler à son salut dans la crainte de Dieu donne de la joie. Même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis et je m'en réjouirai à vous tous. Vous aussi, réjouissez-vous de même et réjouissez-vous avec moi. Donc là encore une fois, un vocabulaire de l'Ancien Testament, libation et sacrifice. La libation, je fais rapide, c'était une offrande liquide, vin ou sang, qui accompagnait les sacrifices. Et il dit que la mise en œuvre de son salut, ici, il est en train de, si on synthétise, ou si on résume, ça a un coût. Ça a un coût. La mise en œuvre de son salut, ça a un coût. Paul est lui-même en prison à cause de sa foi au moment où il est en train d'écrire. Et il finira en prison. Paul sait que la mise en œuvre de son salut avec la crainte de l'Éternel et une vie de sacrifice comme son Seigneur. Il ne sera pas plus grand que le maître. Mais dans tout cela, c'est ça qui est intéressant, c'est la joie qui l'emporte. Craindre l'Éternel, vivre cette capacité que Dieu nous donne de vivre ce salut, ne pas faire de compromis, ne pas murmurer, de vouloir vivre une vie intègre à l'Évangile, peut emmener des souffrances. La souffrance est dans le contenu du salut qui est en progression dans notre vie. En tant que chrétien, nous allons souffrir pour notre foi. Et je vous assure, la souffrance, pas besoin d'aller la chercher. Elle va venir à vous. Elle va venir à vous. Et c'est un sujet de choix de souffrir pour ce salut que Dieu a commencé en nous. En attendant la bienheureuse espérance, la souffrance est au programme. À des échelles différentes, mais elle est au programme dans nos vies. De lutter avec un péché, c'est une souffrance. Quand on parle de souffrance ici, ce n'est pas que les souffrances forcément extérieures. C'est une souffrance. Renoncer à ça. Paul va parler de ça. C'est un combat. On l'a vu, guerre à l'âme. Et je vais conclure. En tant que chrétien, exhortation encore de ce matin, retenez-la bien, Dieu a commencé une œuvre en nous. Et Dieu veut que cette œuvre soit mise en action avec la crainte de Dieu. Ça revient à ce que Paul a dit, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. » Supporter l'injustice et vivre l'humilité, c'est ce qu'on avait vu avec Michael. Pourquoi devons-nous vivre de cette manière? La seule explication et la seule et bonne réponse, à cause de Jésus-Christ. À cause de Jésus-Christ. Amen. Je vais inviter Sidney.